Café bien-être, un moment pour soi, c'est tout de suite et c'est le numéro 2, le premier ayant été intitulé « Les aidants ». Aujourd'hui, donc, Michel Piquet et Anne-Marie Giaguédu vont vous parler « Quand son conjoint est malade, comment on le vit ?» Bonjour Michel Piquet, bonjour Anne-Marie Giaguédu.
Et bonjour.
Bonjour.
Et bonjour aux auditeurs.
Alors, vous allez nous parler de comment on vit l'accompagnement d'un proche, d'un compagnon ou d'une compagne.
Tout à fait. Ou d'un enfant.
Bon, eh bien, Michel, je vais te laisser la parole. Pourquoi ce sujet ?
Alors, parce que dans nos accompagnements des personnes malades, hein, on a également accompagné les familles. Et on s'est rendu compte que quand une personne est malade, ça va impacter en fait toute la famille. Ça risque de créer des conflits, des culpabilités, hein, on l'a vu, des peurs, aussi de l'inquiétude et aussi beaucoup de fatigue pour les proches. Donc ça va poser problème souvent, hein, pour continuer en fait à accompagner ce proche. Alors si on prend un exemple, une personne, mettons, devient diabétique. Elle va devoir changer ses habitudes alimentaires, donc ça va entraîner beaucoup de modifications, hein, modifier les repas, les quantités, la qualité des plats, etc. Et finalement, toute la famille devra s'adapter à ces nouveaux équilibres. Faire attention aux sucreries, et puis celui ou celle qui fait les repas, ça va être compliqué, parce qu'on ne peut pas toujours faire plusieurs menus, hein, c'est coûteux et épuisant. Donc le conjoint en premier, il va devenir codépendant de la maladie de la personne. Et puis, la famille va être également atteinte, hein, en second. Tout va devoir être modifié au niveau de l'équilibre. Alors, si évidemment, hein, il s'agit d'une maladie plus grave ou plus invalidante, bien sûr, ça va générer plus d'inquiétude, plus de stress, plus de culpabilité et beaucoup de questionnements. Et il peut arriver que la charge de la maladie, donc du proche, soit trop importante sur la durée et que cela finisse par faire craquer d'épuisement celui qui aide. Alors pour nous, accompagnants, c'est un vrai problème de prévention de la santé. Oui. Voilà, de pouvoir prévenir en fait la santé du proche aidant. Oui. Il y a bien sûr le malade, mais il y a aussi le proche aidant, il y a la famille, hein, qui fonctionne vraiment comme un système. Et on sait que s'il y a un des éléments du système qui bouge un peu trop, ça va faire bouger tout le système. Et si le conjoint aidant tombe malade ou s'épuise, eh bien ça va être tout le système familial qui va s'effondrer. Ça, on l'a vu beaucoup à domicile, où en fait, pour maintenir le domicile, il faut vraiment qu'il y ait un conjoint aidant qui soit suffisamment, je dirais entre guillemets, costaud, hein, et qu'il y ait aussi une famille qui soit assez proche. Alors si on parle par exemple de la maladie d'Alzheimer, les associations France Alzheimer ont mis au point par exemple des séjours de répit pour permettre aux aidants naturels de se reposer, de faire un break, de reprendre son souffle, pendant que d'autres professionnels et bénévoles s'occupent de leurs malades. Et ça, c'est très important pour justement permettre aux conjoints aidants de ne pas s'essouffler complètement, parce qu'on sait que c'est une maladie qui est très difficile, non seulement pour celui qui la vit, mais également pour tous les proches. Alors, ces associations organisent également ce qu'on pourrait appeler des séjours vacances, où les aidants peuvent prendre leur congé avec leurs malades, mais aider, relayés par des professionnels et des bénévoles. Et ça, c'est très important, parce qu'il y a souvent beaucoup de culpabilité à laisser la personne. On dit, oui, mais on l'abandonne, nous, on va prendre des vacances. Ben là, on peut faire tout ça ensemble, mais en étant aidé, en étant soutenu. Donc, ce sont quand même des beaux projets. Alors, malgré tout, ce qui va être important pour un aidant, c'est de ne pas s'oublier. Hein, les aidants, ils veulent bien faire, mais si toute la charge d'une personne malade repose sur une personne, donc on l'a dit, cela finira par l'épuiser. Parce qu'il n'y a pas que cette charge directe, hein, il faut faire face à toutes les autres charges. Alors, si la personne malade participe peu ou ne participe plus du tout, hein, en fonction de la maladie, et ça va constituer à la fois une charge physique et puis on pourrait dire une charge mentale aussi. Alors, il y a les rendez-vous médicaux, hein, il y a l'organisation, à prendre les rendez-vous, il y a les déplacements, il y a les traitements à surveiller, il y a les professionnels qui se relaient, hein, à coordonner. Et puis, ben, tout ce qui fait partie du quotidien, c'est-à-dire les différentes courses, l'organisation, la confection des repas, l'entretien du linge, de la maison, etc. Et puis, en plus, éventuellement, la charge de la famille, suivant s'il y a des enfants ou des parents dont il faut s'occuper. Peut-être qu'il y a encore toujours un travail, hein, suivant l'âge et la situation familiale. Et puis la charge financière qui peut s'alourdir parce que malgré tout, il reste quand même beaucoup à charge au niveau financier pour les familles. Alors là, on a parlé, voilà, un petit peu du quotidien. Et puis, outre la charge physique de jour, il peut y avoir des réveils la nuit. Donc la personne malade peut mal dormir, évidemment, à cause de la douleur ou de sa maladie, de son inquiétude. Et puis, les dents, du coup, ben, il va se réveiller, il va essayer là aussi de, hein, de compenser un peu, de faire ce qu'il y a à faire. Et là, du coup, il va récupérer de moins en moins au fil du temps. Les petits voyages, les petits déplacements, ça peut devenir difficile, hein, suivant le contexte. Et les vacances, ben, il peut y en avoir beaucoup moins, ou alors elles vont être peut-être beaucoup moins ressourçantes. Donc, les dents, hein, pris par le manque de temps, de disponibilité, la fatigue va s'installer. Il risque de diminuer ses activités de loisirs ou même, alors plus grave, je dirais, les supprimer. Parce que du coup, il va être beaucoup trop, je dirais, centré sur l'aide, hein, à la personne malade. Et lui, il va s'oublier parce qu'il y a tellement de choses à penser, à faire. Il y a de l'inquiétude, il y a aussi de la culpabilité. Est-ce que je fais assez bien? Est-ce que... Voilà. Et puis, il y a certains malades, alors qu'ils peuvent se sentir coupables d'être une charge pour l'autre. Ce qui n'empêche pas, quelquefois, d'être un peu exigeant. Et du coup, voilà, quand il y a cette exigence, eh ben, l'aidant, il va faire toujours plus. Et c'est là où il va risquer de s'oublier... de plus en plus chaque jour, et ça va devenir une sorte de cercle vicieux où l'aidant qui n'arrive plus suffisamment à se ressourcer, la charge mentale et physique augmente avec le stress qui augmente, le manque de sommeil, etc., etc. Et tout le questionnement aussi qui se passe autour de la maladie. Hein, c'est-à-dire, est-ce que je vais tenir le coup jusqu'au bout? Est-ce que la maladie va s'aggraver? Est-ce qu'il va y avoir une stabilisation? Voilà, tout ça, ça va augmenter en fait l'inquiétude face donc à l'évolution de la maladie. Alors le mari d'une dame là, que j'avais accompagnée avait déclaré un cancer de la vessie. Et cet homme était très actif, hein, avant cette maladie. Il faisait le jardin, il partait à vélo, en balade souvent, il faisait les courses, il s'occupait de l'entretien de la maison. Enfin bon, il était vraiment actif et il s'intéressait à beaucoup de choses. Et cette dame, qui était déjà de nature anxieuse, hein, bon, elle le reconnaissait elle-même, elle me disait « À mon âge, j'ai plus la même énergie qu'avant, je me fatigue plus vite et maintenant je dois tout gérer ». Les courses, les repas, le ménage, m'occuper de son traitement, l'emmener à ses rendez-vous médicaux, alors que je ne conduisais presque plus. Et aujourd'hui, alors c'était difficile pour elle, hein, aujourd'hui il ne fait plus rien, il ne s'intéresse plus à rien, il râle pour un oui, pour un non, il me sollicite tout le temps. Et j'ai plus une minute à moi, même la nuit. Alors c'est vrai qu'il se sent très diminué avec l'opération, les appareillages. Alors bien sûr, il a honte, hein, aussi, il a peur de sortir. Il reste à la maison et il broie du noir. Alors du coup, je ne peux presque plus sortir. Je ne vais plus à mes activités qui m'apportaient beaucoup. Il a besoin de choses, il a besoin de moi pour faire des choses qu'il pourrait, je trouve, faire tout seul. Mais bon, voilà, il me demande et je pense que... À la fois, ça me fatigue, à la fois, c'est un petit peu normal. Donc, tout cela m'épuise et je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir tenir. Voilà, c'était son questionnement. Et c'était vraiment difficile pour elle. Finalement, bon, heureusement, l'état de santé de son mari s'est stabilisé. Et je lui ai conseillé de voir avec ses enfants, de faire un conseil de famille pour trouver des solutions alternatives pour soulager le couple, parce que on le redira après, c'est difficile pour les enfants de voir vieillir leurs parents. C'est difficile aussi de voir qu'ils n'ont plus la même énergie, qu'ils ne peuvent plus faire autant de choses. Et surtout quand ils sont loin, ils ne voient pas vraiment l'évolution de la maladie. Et il faut les solliciter pour leur demander de l'aide. Alors ça peut être effectivement de prendre la personne chez eux de temps en temps ou de venir, de se relayer. Enfin, quand il y a les enfants, il faut surtout qu'ils comprennent que la personne aidante, elle ne peut pas faire ça toute seule et qu'il faut trouver des solutions pour soulager le couple. Le malade ne veut pas de solution alternative pour soulager les dents. Anne-Marie, est-ce que tu peux nous en parler un peu ?
Oui, eh bien, il va falloir comprendre que soutenir le conjoint aidant est vraiment indispensable pour maintenir le bon fonctionnement de la prise en charge à domicile et à stabiliser. Sinon, à un moment ou un autre, le conjoint aidant va craquer ou tomber malade, et la famille va devoir prendre des décisions d'urgence comme une hospitalisation ou un placement en EHPAD. et, ou au mieux, de nombreux professionnels pourront prendre le relais à domicile. Mais ça, faut-il que les familles aient aussi les moyens de pouvoir faire garder la personne par des personnes, des gardes-malades, quoi. Oui. Donc, ça demande encore des finances supplémentaires. Alors, s'il n'y a pas d'anticipation, la personne malade risque de se retrouver dans une situation de détresse encore plus stressante en cas de défaillance de son soutien habituel. Au cours de mon expérience d'aide aux aidants, ces personnes m'ont souvent fait part de leurs inquiétudes à tenir sur le long terme et se poser ainsi cette question angoissante. Et si je tombe malade? Et si je pars avant elle? Qui va s'en occuper? Il est vraiment indispensable que le soutien familial soit là pour continuer à ce que la personne se ressource avec des activités où elle va pouvoir rencontrer d'autres personnes dans un climat convivial, continuer à rire et vraiment prendre du plaisir dans sa vie. C'est vraiment la solution indispensable pour continuer à avancer dans ce rôle qui est très lourd pour l'aidant. Alors, je vais vous raconter l'histoire d'une jeune femme dont l'enfant était malade et qui était hospitalisée. Et qui donc un jour m'a raconté, plusieurs fois par semaine, je vais jouer au tennis dans mon club habituel. Ça me fait énormément de bien de taper dans une balle. Je cours, je transpire, je ris. Parfois, je pleure aussi. Mais j'ai l'impression d'évacuer mon stress, ma colère, ma peur. À ce moment-là, je me sens vivante. Elle raconte qu'elle a surpris les paroles d'une femme dans le vestiaire et elle se demandait comment je pouvais passer du temps à jouer à la balle alors que mon enfant souffrait à l'hôpital. Mais cela l'a vraiment beaucoup blessée. C'était une gifle énorme pour elle. Et elle dit « Je me suis sentie jugée ». Mais l'amie avec qui je jouais est tout de suite intervenue et elle lui a dit ce qu'elle pensait. « Vous ne devriez pas juger les autres ainsi. Vous ne savez rien de cette situation. Vous ne comprenez pas que l'angoisse, le stress, la fatigue et la peur ont besoin d'être évacués pour que cette mère puisse continuer à s'occuper de son enfant sans craquer. » Préférez-vous qu'elle montre un visage défait à son enfant, qu'elle lui montre qu'elle est épuisée et que son enfant est un fardeau? Vous ne comprenez rien à la vie. Cette diatribe a fait fuir ces personnes malveillantes et m'a redonné confiance en moi. J'avais besoin de cette activité pour me défouler et montrer à ma fille un visage toujours souriant et plein d'espoir. J'ai été réconfortée par la réaction de mon ami et d'autres personnes au club. Alors, souvent, on a peur du regard des autres, peur d'être jugé et aussi mal compris. Il ne s'agit pas d'abandonner les malades, mais de se donner l'autorisation de se ressourcer, de prendre aussi soin de soi pour traverser cette épreuve en restant vivant. Et pour cela, il est important de s'entourer de personnes bienveillantes, soutenantes et éviter si possible les personnes jugeantes aux discours toxiques. Et là, je dirais, Michel, que nous sommes les seules personnes à pouvoir le faire. Donc c'est important dans ces moments-là de prendre conscience des personnes qui peuvent être toxiques dans l'entourage. Ça ne veut pas dire qu'on ne va plus leur parler, mais ça veut dire qu'on va peut-être, ces personnes-là peuvent limiter le temps de rencontre pour que justement ça soit plus, en tout cas, moins délétère pour elles, quoi.
Tout à fait.
Donc, dans les petits conseils, on dira toujours la même chose, qu'il est très important aussi de se reposer, faire une sieste, prendre le temps de méditer. Vraiment, plusieurs fois dans la journée, arrêtez-vous, vous êtes en train de faire vous avez une occupation, que ce soit en train de préparer à manger, que ce soit en train de faire le lit, donner les médicaments.
respirez. Prenez le temps d'inspirer et expirer. Juste cette petite chose-là, eh bien, peut changer complètement le cours de votre journée. Et là, bien évidemment, on peut aller jusqu'à se relaxer. On vous a laissé une petite relaxation le mois dernier. Et puis, vous aurez tout à l'heure aussi une petite méditation. Voilà, c'est vraiment important de faire des choses qui vous ressourcent, qui permettent de décompresser avec de la gymnastique douce ou du yoga. Voilà, vraiment faire une activité qui vous fait du bien. Alors, chacun va pouvoir se reconnaître. Qui aime le dessin, qui aime la peinture, qui aime écouter de la musique. Musique, danser, chanter, voilà. Vous seul savez ce qui vous anime, ce qui vous apporte de la joie au quotidien, et vraiment abusez-en quoi, au maximum pour recharger les batteries. Donc vraiment, autorisez-vous aussi à vous faire aider pour prendre soin de votre proche. Alors pour justement prendre du temps pour vous. Et laissez-vous, voilà, ça aussi c'est un cheminement, hein, mais d'arriver à permettre le relais avec une infirmière pour laisser, ben voilà, faire l'infirmière, la toilette. Pas toujours facile, hein, pour les aidants, hein, mais c'est vraiment des petites choses. C'est des moments où vous pouvez prendre le temps, un petit moment pour vous, voilà, ça aussi. Oui, on parle de la toilette, mais aussi on peut parler d'une aide ménagère pour les courses, pour le ménage. Voilà, il peut y avoir des aides pour ces prestations aussi. Hein, donc, ne pas hésiter à demander une assistante sociale s'il peut y avoir des aides en fonction des revenus. Voilà. Alors, vous avez aussi des associations, des professionnels, des bénévoles qui peuvent prendre le relais. Donc, comme je l'ai dit, donc les infirmières, les services de soins à domicile, les auxiliaires de vie, le portage des repas à domicile. Et ça peut être ponctuel. Donc, voilà, quand vous ressentez le moment d'une pause, eh bien, il peut y avoir ce relais qui peut être positif. Et on pense aussi aux proches, aux enfants, qui peuvent aussi faire un roulement pour prendre en charge leurs parents. Donc, aussi, c'est important de pouvoir en parler en famille avec les descendants.
Thank you.
Alors oui, Anne-Marie, c'est vrai que les enfants, les proches, on l'a dit tout à l'heure, il faut qu'ils soient au courant, il faut pouvoir communiquer avec eux. Alors surtout dans la maladie d'Alzheimer, hein, s'ils sont loin, ils ne voient pas les modifications. Et quelquefois, les personnes malades font un effort. Quand c'est en téléphone ou voilà, c'est, on ne sait pas exactement scientifiquement pourquoi, mais en tout cas, voilà, on dirait que les neurones ils se connectent un petit peu, mais ça ne va pas durer. Donc quelquefois, les enfants ne se rendent pas compte de la difficulté en fait des parents et de l'aidant. Et quelquefois aussi, comme tu l'as ébauché là tout à l'heure, c'est l'aidant lui-même qui a du mal en fait à se faire aider. Pourquoi il a du mal? Ben parce qu'il se culpabilise et puis il veut pas forcer la personne malade à ce qui est, entre guillemets, hein, des étrangers à la maison. Alors c'est vrai que quelquefois, il y a beaucoup de professionnels hein, et de bénévoles qui arrivent dans la maison. Ça peut faire un grand changement et il y a une adaptation à ce moment-là nécessaire qui n'est pas toujours facile. Donc c'est pour ça que les professionnels ou les proches, il faut vraiment être à l'écoute et expliquer justement à l'aidant, hein, à l'aidant naturel, qu'il a besoin hein, de ces aides, de se ressourcer, pour pouvoir se ressourcer, mais aussi d'être écouté. Hein, d'être écouté, parce qu'il n'y a pas que le malade, justement, qui a des difficultés. Les aidants ont souvent besoin de parler, d'être écoutés. Alors, c'est vrai que chaque famille va trouver son mode de fonctionnement pour s'entraider en fonction de ses possibilités et puis aussi pour déculpabiliser le malade hein, qui se sent inutile, qui se sent un poids. C'est quelque chose qui revient souvent, ça. Alors, vous pouvez vous adresser hein, aux mairies ou aux services de coordination locale pour avoir les renseignements à la fois sur les services d'aide et sur les aides pratiques financières. Alors France Alzheimer propose de l'écoute, des informations sur la maladie et comment y faire face. Donc on l'a dit, elle propose hein, des séjours de répit, des séjours de vacances, mais aussi des groupes d'entraide hein, pour les aidants. Et puis un accueil de jour est proposé sur une journée avec des activités spécifiques, hein, souvent sur votre ville ou sur votre village, ça va dépendre des régions. Il y a des cafés qui peuvent se tenir régulièrement sur différents thèmes pour soutenir les aidants naturels. Alors ça peut être un café aidant, ça peut être un café Alzheimer, vous voyez. C'est vraiment important de vous renseigner, de savoir ce qu'il y a sur votre commune ou proche pour ne pas vivre cela tout seul, pour ne pas être isolé, pour ne pas rentrer dans l'isolement. Et puis enfin, vous avez l'Association française des aidants, qui peut vous donner des informations sur les associations existantes dans votre région. Là, c'est très simple, vous tapez www.aidant.fr hein, et vous allez accéder à votre région et vous pourrez voir un peu toutes les aides. Alors, parmi les aides, je vais en citer que quelques-unes, hein, parce qu'il y en a beaucoup, finalement. Il y a le congé de proche aidant, l'allocation journalière du proche aidant, l'AJPA. Il y a un congé de solidarité familiale, un congé de présence parentale. Voilà, on ne peut pas tous les citer ici, mais vous voyez qu'il y a quand même des choses, des aides hein, que vous pouvez avoir droit. Ça, c'est très important. Et puis, bien sûr, vous pouvez toujours demander à Jalmalv, hein, Jalmalv 04, pour tout ce qui est d'écoute. Hein, je vous rappelle qu'une permanence est ouverte tous les quatrièmes mardis de chaque mois au Centre des Michel à Digne, de 14h à 16h. Je vous rappelle également qu'il y a un groupe d'entraide au deuil qui a lieu chaque mois sur Digne. Là, vous pouvez vous renseigner soit au 04 92 32 11 01 ou sur notre site pour avoir les dates exactes. Et avant donc de vous quitter, je vous rappelle aussi, on vous rappelle que vous pouvez envoyer des questions hein, à Fréquence Mistral avant chaque émission qui se tient donc chaque premier vendredi du mois à 10h. Hein, si vous avez des questions, on va vous donner donc le prochain thème puisqu'on se retrouvera le 3 avril pour parler des directives anticipées qui sont souvent très mal comprises ou qui peuvent être anxiogènes.
Oui.
Et en ce moment, donc, vous savez qu'il y a une loi, hein, qui est une nouvelle loi qui est débattue. Donc c'est vraiment important que vous connaissiez, que vous sachiez utiliser les directives anticipées. Alors Anne-Marie, voilà. Peut-être tu voulais préciser
oui,
aussi.
Je voulais donc vous rappeler que donc au mois de juin, nous organisons avec Michel une session résidentielle qui se tiendra à Beauvaisé pour accompagner les personnes à vivre un deuil, qu'il soit ancien ou récent. Et vous pouvez aller prendre des informations sur mon site amjagedu-6formation.com. Et là, comme ça, vous pourrez voir toutes ces informations et ne pas hésiter à nous contacter directement pour plus de renseignements. Voilà. Donc, nous vous proposons pour terminer ce moment de partage, nous vous proposons quelques suggestions de lecture. Alors, la première, être proche aidant, c'est apprendre à danser sous la pluie plutôt que d'attendre l'orage. C'est de Rosette Poletti et on vous le conseille vivement. Et un autre de Michel Arcan et Lorraine Brissette, c'est « Guide de survie des proches aidants ». Voilà, donc un petit peu de bibliographie pour justement pouvoir cheminer sur cette thématique. Nous vous remercions
Merci.
Pour ce moment partagé. Eh bien, nous nous retrouvons le vendredi 3 avril à 10h pour un prochain café bien-être sur la thématique les directives anticipées. Voilà. Eh bien,
au revoir.
Au revoir et à bientôt, au mois prochain.